Ladies and gentlemen, Claire Moody, the co-chair of this session, and myself, we would like to warmly welcome all of you, especially our distinguished speakers, the colleagues from the European Parliament, and all the participants to the first part of our roundtable, which will deal with the question of peace and security. First of all, let me inform you that we have interpretation available in the following languages: English, French, German, Spanish, Italian, and Portuguese. And may I also inform you that this roundtable is web-streamed. Ensuring peace and stability in Africa is key in order to promote growth and better living conditions. Africa, as we just heard at the opening session, is a continent with a huge potential, both in human and economical terms. But unfortunately, some regions of Africa are still plagued by conflict and instability. In particular, we will touch upon the situation of the Sahel-Saharan states. In broader terms, we would like to discuss today the long-term perspectives for solving conflicts and ensuring lasting post-conflict reconstruction. We will also look at how to enhance our cooperation and coordination with our African counterparts in order to contribute to building the capacities necessary to cope with these problems. Let me also underline what President Tajani and others just formulated. We in the EU are deeply engaged in trying to contribute towards a more stable, peaceful and prosperous Africa. Most of all, we are convinced that the path towards this goal is first of all political. We need to make sure that all the key players and the international community are equally involved in this common project. Today's high-level conference hopefully will be instrumental in renewing our political commitment. I would now like to introduce the participants on our panel debate. First of all, I would like to welcome General Salif Traoré, the Malian Minister of Security and Civil Protection. I would also like to welcome Mr. Jean-Pierre Lacroix from the United Nations. He is the Under-Secretary General for Peacekeeping Operations. Then I would like to welcome Mr. Guillaume Ngefa, Director for Human Rights from the United Nations Multidimensional Integrated Civilization Mission in Mali. And finally, Mr. Serge Mikhailov, an Associate Research Fellow at IRIS, the French Institute for International and Strategic Affairs. Now, Claire Moody and I have one huge challenge. We're running late, and this session will have two panels. The first one is ours, but then we will have a second panel on human rights and other issues chaired by my dear colleague, Mr. Panzeri. So we will have to close this panel at round about 6:15. That means we have to have a strict time limitation for our speakers. That's why, without further ado, now I'd like to give the floor to our co-chair, Claire Moody. She is the vice-chair of our subcommittee on security and defence. Claire, the floor is yours.
Thank you, David. And I would also like to thank the speakers coming to this important event today. I think there is one thing we will hear about, then it is the multidimensional nature of the challenges we are facing together in the Sahel region, but also in other parts of Africa. I think it is fair to say that the EU is in this for the long haul. In recent years, we have massively stepped up our engagement in Africa and with our African partners to ensure peace and stability in the continent's most troubled regions. Europe's approach has always been comprehensive, delivered through development aid, humanitarian aid, support for the regional and continental security infrastructure via the African Peace Facility. And, of course, our CSDP missions, of which there are now 8 active on the continent. None of this would have been possible without our partners on the ground. Particularly our cooperation with the African Union on peace and security has been extremely fruitful. The funding provided through our Africa Peace Facility has assisted in building up the AU's ability to deploy African-led peace operations, which are now a fundamental force for stability in some regions of the continent. Similarly, our cooperation with the UN on peacekeeping operations has been excellent. An area that has also been the particular focus of my committee for a couple of years and on which Mr. Lacroix may have some things to say. Supporting regional cooperation has also started to bear fruits. 2 weeks ago, we saw the first active deployment of the G5 force in the Sahel region, an initiative that has benefited from substantial EU support, as has already been mentioned in the plenary. And that displays the participating states' willingness to tackle the problems of organised crime and terrorism. I am sure General Traoré will be able to provide us with an interesting assessment of this first deployment. All in all, I think we have much to be proud of, and I am looking forward to this discussion on how we can take our cooperation forward further.
Right, thank you, Claire Moody, for your introductory remarks, and now we move on to General Traoré. The floor is yours.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais parler en français. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord dire toute ma satisfaction au nom de mon pays et à mon nom propre d'être à cette tribune-là pour vous parler de la situation sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne avec un focus sur le cas du Mali, puisque le Mali est aujourd'hui en première ligne non seulement en tant que victime du terrorisme, mais également en tant que moteur de la lutte contre le terrorisme, notamment à travers le G5 Sahel. Je voudrais donc articuler mon intervention autour de 3 points. D'abord, rappeler ce que c'est que la situation sécuritaire aujourd'hui, comment est-ce qu'elle se manifeste. Parler au moins d'une initiative majeure du gouvernement malien, qui peut être également dupliquée ailleurs. Et enfin, parler de la force conjointe du G5 Sahel. Pour commencer, je voudrais donc dire que la situation sécuritaire demeure fragile, non seulement au Mali, mais également dans toute la bande sahélo-saharienne, malgré les énormes efforts, tant sur le plan national qu'avec les partenaires internationaux, qui sont consentis au jour le jour pour corriger ces dysfonctionnements-là. Nous avons entendu de l'autre côté, lors de la plénière, qu'il y a beaucoup d'interventions, notamment de l'Union européenne, mais également sur le plan bilatéral, au profit des différents pays, mais encore, aussi, il y a toujours ce problème qui persiste. L'état des phénomènes à combattre aujourd'hui dans cette partie du monde se caractérise par la présence de différents groupes armés. Des groupes armés qui sont issus de la Libye, des groupes armés qu'on peut qualifier de locaux, notamment le groupe ACMI, le groupe Al-Murabitoun, le groupe Ansar Dine, le groupe Boko Haram, un groupe nouveau qui se réclame clairement de l'État islamique, c'est-à-dire Daesh, et un groupe qui se fait appeler Ansarul Islam, qui est entre la frontière du Mali et du Burkina Faso. Récemment, vous avez suivi que tous ces groupes-là se sont mis ensemble pour constituer le groupe du combat pour l'islam, et qui est aujourd'hui, semble-t-il, dirigé par le premier responsable de Ansar Dine. Ces groupes sont identifiés clairement comme groupes terroristes. Je n'utiliserai pas le terme djihadiste, parce que ce terme renferme une connotation religieuse, alors que nous avons là, en face, des criminels qui sont des terroristes pour nous, c'est ce qui soit très clair. Nous entendons souvent aussi tel pays est le berceau, tel pays exporte. Je voudrais battre en brèche cette assertion, puisque si vous avez le tableau, la cartographie de ces mouvements-là, vous verrez que les animateurs de ces groupes terroristes ne se soucient pas de frontières. Tous ces groupes-là sont entre les frontières des différents pays qui constituent aujourd'hui le G5 Sahel, donc qui sont le cœur de cette bande sahélo-saharienne. Alors, le plus tôt nous irons tous ensemble face à des ennemis communs qui ne se soucient pas de nationalité, qui ne se soucient pas de frontières, je pense que le plus tôt nous remporterons des victoires certaines. J'ai parlé de Boko Haram, j'ai parlé du groupe qui se réclame de l'État islamique, j'ai parlé des groupes qui viennent de Libye. Et si vous regardez la position de mon pays qui est souvent citée comme étant le berceau, vous verrez que nous n'avons pas de frontières du tout avec ces pays-là. Et pourtant, leurs combattants sont souvent chez nous. Ils passent par où? Ensuite, la situation de ces groupes armés. Ils sont souvent mieux armés, mieux équipés que les armées nationales de chacun de ces pays que je viens de citer. Alors on doit se poser la question, d'où proviennent ces équipements-là? D'où provient la logistique puissante qu'il faut pour entretenir des centaines de pick-up? Donc c'est là aussi, je pense que quand on a affaire à des forats comme ça, c'est possible, c'est nécessaire de poser la question, sinon on tournera longtemps, on ne trouvera pas les bonnes réponses. Tous ces groupes armés que je viens de citer ont des forces. Ils ont des capacités terrestres, ils ont des capacités à se diluer dans la nature, dans la population. Ils ont une détermination, ils ont une idéologie, ils ont du renseignement, puisque comme je l'ai dit, ils se dirigent dans la population, par les liens du mariage, par les liens de famille, ils savent ce qu'ils nous faisons. Ils ont aussi des soutiens occultes parce que tout n'est pas que terroriste, et je vais y revenir là-dessus. Notre chance, c'est quoi? C'est que les faiblesses qu'ils peuvent avoir, c'est de contrôler totalement des territoires étendus. Ils ne peuvent pas le faire. Jusqu'à présent, Dieu merci, ils n'ont pas de moyens aériens. Donc c'est là aussi quelque chose que nous devons pouvoir exploiter et que par endroits, les populations ne les suivent pas. Mais au-delà de ces groupes terroristes, l'état de la menace dans cette région-là, également, ce sont et tout ce qui est trafic de drogue, trafic d'êtres humains et trafic de cigarettes. On ne parle pas beaucoup de trafic de cigarettes. Mais c'est quand même un acte très lucratif également et qui permet à ces groupes de se financer au détriment des circuits légaux et réglementaires. Troisième phénomène, c'est le grand banditisme. Vous voyez, à partir du moment où ces groupes ont sévi dans les différents États, l'administration centrale a été ébranlée, a dû même se retirer de certains endroits, laissant place libre à des règlements de comptes souvent politiques, souvent juste pour des banalités, mais tout cela complique la donne et donne l'impression que c'est le terrorisme qui est présent partout, alors que souvent on peut ne pas l'associer à cela. Vous savez, donc si vous regardez cela, l'objectif peut être clair. Il s'agit pour ces groupes, ces trafiquants, ces terroristes, ces bandits armés, de créer et d'imposer un état de non-droit. C'est ce qu'ils cherchent. Et pour cela, ils cherchent à avoir la mainmise sur des petites portions, des petites zones, surtout là où l'État n'est plus présent, pour faire ce qu'ils veulent et pour terroriser, pour créer la psychose chez les paisibles populations. Je disais, et cela m'amène donc à mon deuxième point, que le Mali a développé une initiative que nous avons baptisée Plan de sécurisation intégré des régions du centre. Parce que si vous regardez la zone sahélo-saharienne, le Mali est au centre, c'est vrai. Aujourd'hui, les groupes terroristes cherchent à déplacer le centre de gravité de la menace vers le centre du pays, qui subit quotidiennement aujourd'hui des attaques, des poses de mines. Et donc, face à cela, le gouvernement a décidé de renforcer, de ramener la présence de l'État dans toutes les localités qui ont dû être abandonnées à un moment ou à un autre, en assurant la présence et l'opérationnalité de l'administration publique à tous les niveaux, en assurant la protection des personnes et leurs biens, en assurant une fourniture de services sociaux de base aux populations qui se sentent souvent abandonnées, et ce faisant, en essayant de lutter contre le trafic de drogue, et la criminalité organisée qui, encore une fois, permettent de nourrir ces groupes armés. Le plan dont je parle donc est basé sur quatre composantes. Une composante sécurité, puisque comme je le dis, pour faire retourner l'administration là où elle a dû partir, il faut qu'elle se sente sécurisée. Il faut que les populations se sentent sécurisées. Cela peut consister à déployer des unités pour leur sécurisation, mais également des unités mobiles pour la sécurité de l'environnement. Ensuite, il s'agit de maintenant d'insister sur la gouvernance. Vous savez, comme je l'ai dit, l'administration a dû partir. Il s'agit de faire revenir les représentants de l'État, les services sociaux de base et même les élus, souvent, qui ont dû partir face à la pression. Donc, à ramener tout ce beau monde-là de manière sécurisée. Ensuite, il s'agit de donner des raisons à la population d'adhérer à ce projet-là et surtout de rester sur place, de ne pas vouloir quitter la localité parce qu'il n'y a pas d'État, parce qu'il y a des terroristes pour se déplacer. Il s'agit là, à ce moment-là, de ramener des projets à impact rapide qui peuvent combler les besoins prioritaires de la population. Et tout cela se fait à travers une composante communication qui permet à tous les acteurs d'échanger, de se dire ce que les uns et les autres ont sur le cœur afin de trouver les solutions les plus adaptées. Nous pensons que ce plan que nous sommes en train déjà d'expérimenter et de mettre en œuvre au niveau du centre avec l'appui justement de la MINUSMA, de l'ONU, de l'ONU et des partenaires bilatéraux qui interviennent au niveau du Mali, nous pourrons plus tard dupliquer cela au niveau du nord du Mali qui aujourd'hui dépend pour beaucoup dans sa stabilisation de la mise en œuvre de l'accord de paix signé à Alger, mais également dans les autres zones de la bande sahélo-saharienne qui connaissent les mêmes réalités. Je voudrais donc, Monsieur le Président, aborder le troisième point de mon exposé qui concerne la force conjointe du G5 Sahel. Vous l'avez dit, cela est une initiative majeure aujourd'hui puisque nous sommes arrivés à la conclusion qu'aucun de nos pays pris individuellement ne peut faire face à cette menace complexe que je viens de décrire entre groupes terroristes, bandits, trafiquants qui sont souvent mieux équipés que nos forces armées. Aucun pays ne peut faire face seul. Donc nous avons décidé de conjuguer nos efforts et nous avons décidé de faire appel à nos partenaires stratégiques pour nous appuyer à faire face. C'est le lieu également de rendre hommage à la force française Barkhane qui est en train de faire un travail phénoménal dans cet espace-là et qui perd des hommes tous les jours. Nous avons dit que c'est le moment que nous-mêmes nous fassions face, que ce soit nous qui tombions sur nos terres et pas d'autres. Mais vu la faiblesse de nos structures, vu le manque de moyens, nous disons qu'il est de l'intérêt de tout le monde aujourd'hui de nous aider à faire face nous-mêmes, d'y servir le tampon. Je crois que dans la salle, cela a été dit et bien dit. Combattre le terrorisme là où ils veulent s'organiser, c'est de ne pas les avoir chez vous ici en Europe. Et donc, une volonté politique très fortement marquée, puisque c'est seulement le 20 novembre 2015, l'idée est venue à N'Djamena lors d'un sommet du G5 Sahel, ça a été annoncé. Et le 6 février 2017 à Bamako, la décision a été prise de mettre en place cette force. Et entre le 6 février et aujourd'hui, vous avez vu, sous la présidence donc du Mali, beaucoup de choses ont été faites et le mois dernier déjà, une première opération symbolique a été lancée avec l'appui de la force Barkhane. Cela a permis de voir qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire puisque dans la conception du G5 Sahel, nous avons décidé qu'il fallait qu'il y ait 3 fuseaux. Donc, ce n'est pas une force unique pour le moment, mais il y a un commandement unique qui est basé au Mali. Vous avez ensuite un fuseau ouest qui est la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Vous avez un fuseau centre qui concerne les frontières Mali, Niger, Burkina Faso et un fuseau est qui concerne la frontière entre le Niger et le Tchad. Donc, l'opération qui a été lancée concernait essentiellement le fuseau centre. Voilà. Et cela nous a montré qu'il y a encore beaucoup de défis à relever dans la préparation, dans la génération des forces, dans l'équipement des forces et même dans la communication entre les différentes composantes de la force. L'opération a été baptisée Haoubi. Elle a duré du 27 octobre au 2 novembre, comme je l'ai dit, avec l'appui de Barkhane. Et comme nous avons dit, beaucoup de gens qui sont intéressés à ce sujet-là ont pu déplorer que dans la force conjointe, la composante police civile n'était pas suffisamment mise en avant, mais cela procédait du fait qu'il fallait aller vite, puisque les terroristes ne nous attendent pas, ils s'organisent tous les jours de mieux en mieux, ils sont tous les jours mieux renseignés, donc il faut aller vite. Et nous avons dit, et j'ai insisté là-dessus, ils sont très bien équipés, et il fallait donc pour cela mettre en avant une structure militaire qui puisse faire baisser la pression, afin que les forces civiles et l'administration d'État puissent se déployer. Il a été donc décidé, et récemment en Djamena, lors d'un sommet des chefs d'État-major, que les 7 et 8 décembre prochains à Bamako, il va se tenir une réunion, et un atelier qui va préparer les modalités d'intégration de la composante police civile au sein de la force conjointe du G5 Sahel. Je voudrais terminer par insister sur la problématique du financement. Tout à l'heure dans la salle, nous avons encore insisté sur le fait que l'Union européenne a été le premier partenaire stratégique à faire une annonce conséquente, 50 millions d'euros. D'autres partenaires ont annoncé, ont fait des annonces de contribution. Et je dois dire que jusque-là, concrètement, les fonds ne sont pas en place. C'est des annonces, c'est vrai. Nous sommes conscients aussi qu'il y a des procédures dans chaque pays, dans chaque structure. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous gagnerons beaucoup à être plus souples, plus flexibles pour que les décaissements, soit en nature, soit en espèces, puissent aller beaucoup plus vite. Parce qu'encore une fois, ces terroristes ne nous attendent pas, ils ne vont pas attendre et ont tout intérêt, au contraire, à nous dévancer, à créer plus de psychoses, à désorganiser nos dispositifs avant que nous nous organisions mieux, que nous nous préparions mieux. Tout ce qui a été annoncé n'est pas encore en place. 50 millions d'euros passés là. Je dois par contre ajouter que la France a annoncé 8 millions d'euros et que la France a commencé à mettre en place des équipements qui sont constitués, donc c'est pas ces 8 millions d'euros. Mais le reste n'est pas encore en place et c'est pourquoi cette première opération du G5 Sahel a pu être impactée par cela. Nous avons beaucoup d'espoir sur cela, mais une solution également, comme les États-Unis l'ont dit, ont annoncé aussi 60 millions de dollars, mais en disant que ce sera sous forme bilatérale. Nous attendons de savoir comment ça va se concrétiser, mais il est très important que l'Union européenne, qui, dans sa doctrine même, ne finance pas directement les armes létales ou les équipements militaires, à défaut que l'Union européenne puisse être un puissant moteur pour encourager les États, de façon bilatérale, à aller dans le renforcement substantiel des forces de défense et de sécurité, surtout de ces pays membres-là. Voilà. Donc, vraiment, je tenais à insister sur ces aspects-là. Encore une fois, je voudrais vous remercier et très, très, très sincèrement. Je sais que par endroits dans le monde, l'Occident a eu, mais d'autres pays, d'autres partenaires ont eu à créer des structures en termes. Je voudrais citer ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie, ce qui s'est passé au Libéria, où on a recréé carrément des systèmes. Il est temps de le faire aujourd'hui en équipant les forces armées et de sécurité des différents pays qui sont au front pour qu'ils puissent faire sérieusement face à cette menace-là. Encore une fois, merci pour votre attention et c'était un plaisir d'être là. Merci.
Merci bien, Général Traoré. After your first statement, we now come to our next speaker, which will be Mr. Lacroix from the United Nations. May I apologize that now I will have to be a bit stricter on the time limit as agreed. It's 7 minutes, I heard. Monsieur Lacroix.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais essayer de tenir vos limites. Bon, nous avons une quinzaine d'opérations de maintien de la paix déployées sur le terrain. Certaines sont des missions qu'on dit traditionnelles, c'est-à-dire des missions d'interposition où des militaires surveillent un cessez-le-feu, mais d'abord, elles sont les moins nombreuses et aussi les moins importantes en taille, à l'exception peut-être de celle du Liban, ces missions. Et puis même ces opérations traditionnelles peuvent connaître des environnements qui sont difficiles. Mais l'essentiel de nos missions, aujourd'hui, opère dans des contextes qui sont tout à fait différents de ce que nous avons connu auparavant, avec des mandats complexes et divers, avec des moyens beaucoup plus importants et diversifiés, civils, militaires, de police, des processus politiques qui souvent n'avancent pas ou n'avancent que trop lentement, des environnements dangereux, beaucoup plus dangereux qu'auparavant, où nous sommes visés en tant que Nations Unies, où nos soldats, nos collègues, les travailleurs humanitaires sont visés par des groupes terroristes, par des attaques asymétriques, où nous avons des adversaires qui eux-mêmes sont d'une nature différente de celle des conflits classiques et même des conflits intra-étatiques classiques, des groupes armés qui peuvent avoir un agenda terroriste ou un agenda idéologique ou un agenda politique ou pas d'agenda du tout, mis à part l'agenda de la prédation ou une combinaison de ces différents agendas selon l'heure de la journée. Face à cette situation tout à fait nouvelle, nous devons nous adapter. Et nous devons rechercher les moyens de ne pas rester éternellement déployés, parce que la nature du maintien de la paix, c'est de soutenir la mise en œuvre de processus politiques et puis de viser un départ. Parce que une opération a une durée de vie limitée, une acceptabilité par le contexte local, par la population, qui est par définition limitée dans le temps. Alors comment réagir à ces nouveaux défis? D'abord, nous devons améliorer notre outil. Améliorer notre outil, ça veut dire recentrer les mandats du maintien de la paix sur les priorités les plus importantes. Et quelles sont ces priorités? En général, c'est le soutien à un processus politique et la dimension sécuritaire. Et notamment dans le cadre de cette dimension sécuritaire, la protection des civils, puisque nous opérons très souvent dans un contexte où les populations civiles en difficulté sont nombreuses, que ce soit des déplacés ou des populations soumises à des groupes armés ou à des conditions humanitaires très difficiles ou une combinaison de tous ces facteurs. Donc nous devons recentrer nos mandats, ce qui est une responsabilité collective des Nations Unies, du secrétariat, mais aussi des États membres, et notamment du Conseil de sécurité, qui nous donne nos mandats. Nous devons faire évoluer notre outil, qui a eu tendance à être un peu trop statique, à compter un peu trop sur le nombre. Mais aujourd'hui, nos ressources aussi sont sous pression. Et la nature mouvante de la menace doit nous amener à être nous-mêmes plus mouvants, plus mobiles, plus réactifs. Ça passe par un travail sur l'entraînement, sur l'équipement, un travail qui a été engagé mais qui nécessite des efforts continus, puisque les technologies évoluent, les modes d'opération de nos adversaires évoluent. Nous avons souvent encore des unités de police ou militaires qui ont des capacités en deçà, bien en deçà parfois de ce qui est nécessaire. Donc un effort sur ces domaines qui, pour lesquels le rôle de l'Union européenne, le rôle des membres de l'Union européenne peut être essentiel, parce que ces États et l'Union européenne en tant que telle ont la capacité, ont les moyens, ont les technologies et le savoir-faire nécessaires, non seulement pour apporter des contributions de très grande valeur à nos opérations, comme c'est le cas au Mali, avec la contribution à un certain nombre de pays européens, mais aussi des contributions pour aider les pays qui ont des capacités moins avancées, moins développées, à améliorer le niveau de ces capacités. Un autre élément fondamental, c'est le travail.